Chayatet 13, la flottille secrète d'Israël. Nous sommes en 1956. L'Égypte connaît l'une de ses plus grandes crises géopolitiques, celle du canal de Suez. Le président Gamal Abdel Nasser souhaitait construire un barrage sur le Nil pour produire sa propre électricité et permettre à l'agriculture nationale de se développer. Une construction qui lui sera refusée par les États-Unis. En représailles, Nasser décide de fermer le canal de Suez aux navires israéliens, les grands alliés des États-Unis. Parallèlement, il menace de nationaliser la compagnie du canal de Suez. Une décision qui mettrait en péril les affaires commerciales de la France et de la Grande-Bretagne. Ainsi, durant l'été 1956, Israël conclut un accord secret entre ces deux puissances, France et Grande-Bretagne. Il se conclut par une opération militaire conjointe sur le canal de Suez. Israël est la première nation à envoyer ses troupes. L'occasion pour le pays de tester sa toute nouvelle unité secrète, la Chayatet 13 ou Flottille 13 en français. En octobre 1956, un navire de la S-13, comme l'unité est surnommée, est envoyé pour des missions de reconnaissance. L'unité n'est pas encore bien préparée pour une telle mission. La collecte d'informations est difficile, mais cela n'empêche pas les forces terrestres d'intervenir sur le terrain. Les hommes de la 13e flottille avaient également pour mission initiale de capturer une frégate de la marine égyptienne. Finalement, Yohai Ben Nun, le fondateur historique de cette unité secrète dédiée aux opérations spéciales, préfère annuler la mission pour ne pas compromettre ses hommes et surtout ne pas risquer de percer à jour l'une des unités armées les plus secrètes d'Israël. L'histoire de l'unité Chayatet 13 est antérieure à sa création. Elle naît des cendres d'un échec. Le 18 mai 1941, 23 hommes sous la direction du major Anthony Palmer du SOE, le Special Operations Executive, un service secret britannique, se rendent à Tripoli, au Liban. Ils ont pour mission d'infiltrer une série de raffineries de pétrole appartenant au régime de Vichy en vue de les détruire. L'unité, originaire de Tel Aviv, ne rentrera jamais au pays. Le bateau sur lequel ils ont embarqué, le Sea Lion, a disparu. Les hommes, pourtant bien formés aux opérations amphibies et à la destruction sous-marine, ne donnent plus aucun signe de vie. Tous ces militaires étaient issus du Palmach, une section des forces armées israéliennes créée durant la Seconde Guerre mondiale, pour empêcher les Allemands d'envahir la Palestine. Après l'échec de cette première mission, le Palmach crée sa propre force de commando au sein d'une section maritime, sur le modèle britannique de la Special Boat Squadron, le SBS. La section maritime est pleine de bonne volonté, mais la mise en place du service est complexe. Avant la création de l'État d'Israël, les Juifs de Palestine n'ont aucune connaissance dans la conduite de missions en mer. De plus, leur équipement est rudimentaire. Ils ne disposent pas d'une très grande quantité d'armes. Les premiers marins sont recrutés selon deux critères. Avoir une expérience en mer et posséder un bateau de pêche. En 1948, lorsque les Britanniques quittent la Palestine, sonnant l'heure de la guerre d'indépendance pour Israël, la marine israélienne s'est bien développée. Elle dispose de deux unités de commando naval. Celle des nageurs de combat et l'unité de sabotage, sous le commandement de Yohan Ben Nun. La fameuse Chayatet 13. Elle se distingue en premier lieu par ses tactiques innovantes. En raison d'un budget très limité, les officiers de la flottille 13 doivent composer avec du matériel rudimentaire, comme des kayaks. Les hommes qui constituent cette unité sont les plus forts et les plus intelligents, avec de fortes prédispositions à la survie. Issus du kibboutz, des fermes collectives à l'environnement particulièrement austère et difficile, ils savent faire preuve d'une grande adaptabilité et survivre dans un environnement rustique et hostile. Ils acceptent l'autosacrifice. Chez eux, le groupe prime sur l'individu. première mission de la flottille est de limiter les capacités des Égyptiens dans leur volonté d'entraver une attaque israélienne majeure dans le désert du Negev. L'unité sabotage est désignée pour couler le bateau Émir Farouk, un important navire de la marine égyptienne. Les bateaux mettent du temps à être déployés. L'unité est repérée et doit essuyer des tirs. Ce n'est pas ça qui va les arrêter. Ils continuent à suivre les ordres jusqu'à la réussite de l'opération. Yohann Ben Noun reçoit pour cette action d'éclat la plus haute distinction du pays, le Ftour Hagvoura. Le commando naval impressionne les autorités militaires israéliennes. Les hauts dirigeants militaires veulent protéger son existence à tout prix. Sa création est un véritable secret d'État. Pour ne pas être détecté et identifié, les membres de l'unité doivent porter les insignes ordinaires de la marine israélienne. Ce sont des volontaires téméraires et courageux, menant leur mission avec beaucoup d'audace. Le processus de formation des recrues de la Chayetet 13 dure 20 mois. La formation est considérée comme l'une des plus difficiles et intensives du Tsahal. L'unité est exclusivement masculine. La première étape de sélection consiste à suivre une série d'exercices volontairement éprouvants physiquement et mentalement. Les jeunes sont suivis par des médecins et des psychologues qui approuvent ou non leur habilité pour faire partie de la seconde phase. Les plus combatifs peuvent suivre 6 mois de formation de base et avancée en infanterie avec la brigade Nahal. Une phase de préparation de 3 mois inclut une formation avancée en commando et en armement, une formation en parachutisme, des éléments de base de la guerre maritime, le fonctionnement de petites embarcations, de longues nages, des marches forcées et des destructions à l'explosif. 4 semaines d'entraînement avancé en plongée de combat enseignent les bases de cette plongée, la gestion de situations telles que le froid, l'obscurité, l'eau trouble et la survie en situation sous-marine à haut risque. Plus le temps passe, moins les candidats sont nombreux. La 3e phase, la plus difficile, consiste à suivre une formation aux techniques avancées de plongée avec des systèmes en circuit fermé, la démolition sous-marine, les incursions de la mer à la terre par la plongée et toute autre spécificité de la flottille. Bien sûr, l'apprentissage du tir de précision est obligatoire. Il permet de déterminer les hommes qui feront partie de la troupe de tireurs d'élite. Une fois sélectionnés, ces derniers suivent à leur tour une formation spécialisée. Le Krav Maga, un système de combat au corps à corps qui est l'art martial national d'Israël, doit être maîtrisé pour avoir l'honneur de porter l'insigne de la Chayetet 13. Vers la fin de leur formation, les recrues de la Chayetet 13 suivent un cours sur la résistance à la captivité ennemie. Après un enlèvement simulé surprise, ils sont détenus dans des conditions semblables à une prison pendant 2 semaines, période au cours de laquelle ils seront soumis à des menaces, des interrogatoires, des violences physiques et forcés d'accomplir des activités humiliantes. Ce n'est qu'après cela que les jeunes recrues sont considérés comme de vrais soldats. Cette formation fait d'eux de véritables combattants que l'État d'Israël veut préserver à tout prix. Après la guerre d'indépendance, l'existence de la flottille 13 n'est mentionnée dans aucun document officiel. Tirant des leçons de leur opération manquée au canal de Suez, la Chayetet 13 s'entraîne avec les commandos de la marine française. En 1957, des rumeurs de l'existence de cette unité commencent à circuler. Les autorités israéliennes n'ont pas d'autre choix que d'officialiser son existence. Les hommes de l'unité sont, dès lors, autorisés à porter leur insigne distinctif, un glaive brandi avec des ailes de chauve-souris. En 1958, la flottille 13 mène des opérations d'espionnage. Il n'est plus question de couler des navires, mais de recueillir de l'information. D'abord en Syrie, pour rendre compte d'une livraison de bateaux militaires de type vedette provenant de la Russie, puis au Liban, dans le cadre d'une opération qui s'avérera être un échec. Repérée par les forces armées du Liban, l'unité doit battre en retraite. Récupérée par un bateau torpilleur de la marine israélienne, elle a échappé de peu au massacre. L'unité s'est battue contre un navire de patrouille libanais avant de prendre la fuite et de disparaître dans la nuit. 4 ans plus tard, la flottille 13 subit un second échec au cours d'un raid sur un poste syrien à Courcy. Une fois de plus, elle doit battre en retraite après avoir essuyé des échanges de tirs. La guerre de 1967 est l'un des plus grands échecs de l'unité. Le 5 juin de cette même année, premier jour du conflit, à 19h, six hommes grenouilles quittent le sous-marin israélien Tanin, situé à proximité nord du port méditerranéen d'Alexandrie, en Égypte. Leur mission est d'utiliser des mines sous-marines pour détruire les navires de guerre égyptiens. Malheureusement, les Égyptiens ont détecté l'attaque israélienne. Les patrouilles militaires lancent des grenades dans l'eau pour les chasser du port. Les commandos sont contraints d'abandonner leur cible et de se diriger vers le littoral, où ils trouvent refuge dans une grotte sous-marine. Cependant, au moment où ils atteignent la grotte, les Israéliens ont 3 heures de retard pour retourner au Tanin. Plus le sous-marin attend, plus il risque d'être démasqué par l'armée égyptienne. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils sont découverts et capturés par des pêcheurs égyptiens armés. Les 6 hommes tentent de se faire passer pour des plongeurs commerciaux britanniques, mais les pêcheurs sceptiques les remettent aux autorités égyptiennes. Bien que les 6 hommes soient maltraités et torturés, ils ne divulguent aucune information au-delà de leur nom, grade et numéro de matricule. Le même jour, une autre unité de commando de la flottille 13, dirigée par le commandant du groupe Almog, futur chef de l'unité puis chef de la marine israélienne, attaque le port de Saïd, en Égypte, à l'entrée du canal de Suez dans la Méditerranée. Les hommes approchent en bateau pneumatique et parviennent à entrer dans le port sans être détectés. Mais aucun navire égyptien n'est présent. La mission est un échec après 2 tentatives. À la fin des années 60, la flottille 13 connaît enfin des heures plus glorieuses durant une guerre d'usure dans le conflit israélo-arabe. Elle réalise plusieurs missions de sabotage tout au long de l'année 1969. Pour l'opération Frenzy 5, la Chayatet 13 donne le feu vert à un groupe de commandos pour attaquer un poste de garde égyptien. L'attaque fait 32 morts égyptiens. 2 commandos israéliens sont légèrement blessés. La réussite de l'opération est attribuée à la bonne reconnaissance opérée par la flottille. En juillet de la même année, le raid sur l'île Verte fait état de 3 morts parmi les membres de la flottille 13, contre 80 soldats tués côté égyptien. 3 autres commandos décèdent au cours d'une nouvelle opération qui aura permis le raid de la côte de la mer Rouge. Une opération militaire particulièrement réussie pour les Israéliens. En 1973, l'unité est sollicitée pour la guerre du Kippour. Le 6 octobre, militaires égyptiens et syriens attaquent Israël par surprise. Ils franchissent les lignes de cessez-le-feu, violant ainsi l'accord de paix conclu avec Israël. Les troupes ennemies envahissent des points stratégiques, la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Les premières ripostes proviennent des commandos de la marine. Les 16 et 17 octobre, un canot de missiles Komar de fabrication soviétique et plusieurs torpilleurs sont coulés par des raids de la flottille 13. Le 21 et 22 octobre, c'est au tour des bateaux de missiles égyptiens Komar et Ossa de subir la force de frappe de l'unité. Les hommes ont bénéficié de l'aide de 10 obus américains d'artillerie légère en tank de 66 mm. Bien mieux préparés que lors des précédentes opérations, les commandos ont bien veillé à ne pas viser les tubes de missiles Styx des bateaux et échapper ainsi à une mort certaine. L'explosion aurait provoqué de sérieuses pertes pour l'unité. Lors de l'attaque, elle s'est rapprochée un peu trop près du périmètre de la base. Elle est repérée par les forces égyptiennes. Une mitrailleuse lourde tire un feu nourri sur la flottille. Celle-ci riposte avec des roquettes. Les premières n'atteignent pas leur cible, mais les 2 dernières provoquent l'explosion du destroyer. Cette opération a un effet retentissant. C'est le début de la lutte contre les missiles en mer. Durant les années 80, les hommes de la flottille concentrent leurs opérations contre des cibles libanaises. L'unité joue un rôle très important lors de la guerre du Liban. En moins de 10 ans, ils parviennent à accomplir près d'une centaine de missions secrètes, causant de sérieuses pertes aux membres du Hezbollah, le parti politique islamiste du pays. Parmi leurs plus grandes réussites, on peut citer les 3 raids sur les cibles de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, à Beyrouth, ou encore l'interception d'un bateau rempli d'armes appartenant à Yasser Arafat. Au fil des décennies qui suivent, l'unité navale connaît des succès et des échecs, marqués par plusieurs pertes tragiques. L'opération Shirat Hatzafsefa, menée les 4 et 5 septembre 1997 près du village côtier libanais d'Ansaria, se solde par la perte de 11 militaires tombés dans une embuscade. Après le massacre, 12 autres membres de l'unité sont envoyés en renfort pour récupérer les blessés et les corps. Pendant cette opération de sauvetage, une autre personne perd la vie. Il s'agit du docteur Maher Dagash, un médecin militaire très important pour l'armée israélienne. Les circonstances entourant cette opération ont suscité de nombreuses enquêtes. En 2007, des rapports ont révélé qu'une transmission de drones non codés avait compromis l'opération. Malgré ces diverses tragédies, l'unité persiste dans ses activités avec force et détermination. Elle œuvre encore actuellement dans le conflit israélo-palestinien.